les quatre résolutions du roi Josias. Les quatre résolutions du roi Josias. Alors, comme je viens de le dire, ce matin, nous célébrons notre premier culte de l'année 2020. Et alors, je ne sais pas si vous êtes comme beaucoup de gens, mais c'est vrai que beaucoup de gens prennent des résolutions en début d'année. Alors, je ne sais pas si vous en avez pris, mais voici le genre de résolution que les gens aiment prendre. Par exemple, de faire plus de sport. Ou peut-être de moins consommer d'alcool. Ça, c'était à la télé hier soir, d'accord? Peut-être certains, c'est de perdre du poids. D'autres, peut-être, c'est de mettre du poids. J'en sais rien, d'accord? Pour beaucoup, c'est d'arrêter de fumer. D'autres, c'est de faire des économies ou peut-être ranger leur maison. Ou peut-être pour certains, c'est encore lire plus. Bref, les gens prennent une panoplie de résolutions dont la plupart, semble-t-il, d'après ce que moi j'ai entendu, ne tiennent pas hyper longtemps. Ceci dit, puisque nous sommes en début d'année et que les gens parlent de résolutions à prendre, je me suis dit qu'il serait donc utile de considérer quel genre de résolution serait de bonnes résolutions pour prendre ou de prendre comme église et comme individu dans une église. Alors certes, l'idée de résolution n'est pas vraiment un concept biblique, d'accord ? Ceci dit, il y a certaines décisions bibliques qui sont très bonnes à prendre, tant pour les individus que pour les églises. Ce qui est intéressant quand même à réfléchir, c'est qu'une église ne va jamais dépasser la sainteté ni la sanctification des individus qui composent cette église. Donc, lorsqu'on parle de résolution d'une église, on parle vraiment de résolution de chacun de ses membres et amis. Alors, en pensant à tout ceci, en début d'année, moi, ça m'a fait penser à un récit dans la Bible d'un roi en Israël qui a pris à son époque, je vais les appeler des résolutions, mais quatre résolutions, décisions stupéfiantes, des résolutions qui ont eu un impact positif énorme, non seulement sur sa vie personnelle, mais aussi sur tout son royaume. Et ce qui est étonnant, c'est que ces résolutions sont très applicables à chacun et chacune de nous aujourd'hui pour cette nouvelle année. Donc, notre texte ce matin va être 2 Chroniques 34. 2 Chroniques 34, alors vous pouvez y aller, mais en y allant, arrêtez-vous à 2 Rois 23 et le verset 25. Enfin, j'aimerais vous montrer un verset, il y a en fait deux récits hein, sur ce roi. Nous, on va se concentrer sur 2 Chroniques 34, mais dans le récit de 2 Rois 23-25, il y a un verset qu'il ne faut pas rater dans cette histoire. D'accord ? Alors écoutez ce verset, 2 Rois, chapitre 23 et le verset 25. Je lis. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y en a point paru de semblable. Alors ce verset nous dit simplement que parmi tous les rois d'Israël, et il y en a un paquet, le roi Josias était le prééminent de tous ceux qui sont revenus au Seigneur de tout leur cœur et selon la loi de l'Éternel. Il était, si on veut le dire comme ceci, le plus grand de tous les rois en ce qui concerne sa relation avec le Seigneur. Alors je me suis posé la question, moi quand je vois les versets comme ça, je me dis mais pourquoi ? Pourquoi une telle éloge à ce roi ? Et qu'est-ce qui a fait que cet homme a reçu cet éloge, ou bien on pourrait poser la question comme ceci, qu'a fait ce roi concrètement pour recevoir un tel éloge ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ce jeune roi, parce qu'il était très jeune, on va le voir dans quelques instants, a fait un bilan personnel dans sa vie, mais aussi un bilan personnel, si vous voulez, de son royaume. Et son constat l'a quasiment assommé. Il a réalisé que dans son royaume et dans sa propre ville, il y avait un immense décalage en ce qu'il prétendait être et ce qu'il était vraiment. Le royaume d'Israël était censé être le peuple de Dieu, totalement consacré à l'Éternel, vivant à la gloire de Dieu, mais la réalité était tout autre. Le royaume de Josias était en ruine spirituelle, en décadence morale, et qui pratiquait ouvertement l'idolâtrie. Josias prend conscience de ces choses et va entreprendre ce qu'il fallait pour changer ces choses. Le pays entier s'est éloigné du Seigneur, s'était englué dans l'habitude du péché gravissime. Et Josias a décidé de changer tout cela par une série de réformes courageuses et radicales. Et l'application, on peut presque la commencer maintenant. Parfois, bien aimé, il faut être radical avec soi-même, si on veut vraiment être sérieux avec le Seigneur. Le pays d'Israël ne pouvait aller mieux spirituellement, enfin, ne pouvait pas aller mieux que les citoyens qui le constituaient. Josias a compris cela et donc met en place ses réformes. Alors, un mot sur le contexte historique. Josias était le dernier des bons rois. Vous savez qu'il y a des mauvais rois et des bons rois. Le dernier des bons rois de Judée est certainement le plus grand. Vous rappelez sans doute qu'après la période des juges, le royaume uni d'Israël fut gouverné par trois rois successifs. Saül, David, Salomon. Puis à la mort du roi Salomon en 931 avant Jésus-Christ, le royaume s'est divisé en deux, avec Israël au nord et Juda au sud, avec chacun ses rois. Et c'est malheureux de le dire, mais pendant cette période de séparation, ils se sont fait la guerre entre eux pendant environ 200 ans. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que la Bible donne-t-elle de si longs récits sur ces rois successifs, hein? Si vous lisez 1, 2 rois, 1 et 2 chroniques, c'est tous ces rois, les bons, les mauvais, tout ce qu'ils ont fait. Pour certains, c'est un verset, pour d'autres, c'est des chapitres. Pourquoi ces récits dans la Bible? Eh bien, pour montrer la fidélité de Dieu à l'égard de sa promesse d'une lignée continue à partir d'Abraham qui mènerait un jour à la naissance d'un sauveur dans une ville nommée Bethléem, un sauveur qui viendrait délivrer le monde de ses péchés. Donc, c'est la fidélité de Dieu tout pendant cette période jusqu'à la naissance du sauveur. Et on le voit très bien dans la généalogie de Matthieu 1. Matthieu 1.1 dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Et il commence avec Abraham au verset 2. Et ensuite, il y a toutes les généalogies jusqu'au verset 16. « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ ». Donc, on voit toutes ces généalogies apparaître ici dans Matthieu 1 pour montrer la fidélité de Dieu à amener le Sauveur promis. Et donc, l'Ancien Testament montre que malgré les moments sombres dans l'histoire d'Israël, il y en a eu, par exemple les juges, la division d'Israël et de Juda, il y avait plein de mauvais rois comme Saül et bien d'autres, eh bien on voit que la fidélité de Dieu a perduré et que coûte, Dieu garde ses promesses. Et parfois, il y a des rois qui sont pleinement consacrés au Seigneur, eux sont élevés comme des exemples. Et des rois réformateurs qui ont ramené le pays dans la lignée que Dieu voulait pour ce pays. Donc aujourd'hui, on va examiner le 16e roi de Juda, qui a régné de 640 à 608 avant Jésus-Christ, que je viens de vous lire dans 2 Rois 23-25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y a point paru de semblable. Alors bien sûr, sa grandeur est liée à sa relation avec le Seigneur et sa relation avec la loi. Voyons les facteurs qui ont fait de cet homme celui qu'il était. Donc prenez vos Bibles, allons à 2 Chroniques 34, je pense que vous y êtes déjà. Et nous allons voir que Josias a pris 4 résolutions courageuses vis-à-vis du Seigneur pour mener son pays dans une réforme bénie. Et ces 4 résolutions, je vous les livre en forme d'un mot chacune. Un mot chacune, d'accord? Alors, première résolution... Décision. Décision. Regardons 2 Chroniques 34, versets 1 à 3. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit, écoutez bien, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père et ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à chercher le Dieu de David, son père. On s'arrête là. Mesdames et messieurs, c'est simple. Pour marcher avec le Seigneur, il faut commencer avec une chose, il faut prendre une décision. Prendre une décision. Alors bien sûr, c'est la grâce de Dieu qui nous appelle, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Mais il y a un côté humain qui est une décision à prendre. Et là, c'est ce qu'on voit ici. La croissance du croyant ne se fait pas par osmose, mais par un choix décisif et consciencieux comme quoi il marchera avec le Seigneur fidèlement. Mais pour ce roi-ci, son choix fut particulièrement remarquable. car il y a plusieurs facteurs qui ont rendu son choix très difficile. Premièrement, son âge. Regardez verset 1. Il nous dit que Josias devint roi à l'âge de 8 ans. Attendez voir. Rappelez-vous quand vous avez 8 ans. Et maintenant, on vous place roi d'un pays. Je l'envie à personne, ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a régné 31 ans, à partir de l'âge de 8 ans. Et le verset 2 nous dit, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en est détourna ni à droite ni à gauche. » C'était un homme droit, il s'est inspiré de David. Ça veut dire que David, c'était un arrière-grand-père qui voulait dans la lignée, mais David était un bon roi, donc il s'inspirait du roi David. D'accord, mais à quel âge a-t-il décidé de marcher dans les voies du Seigneur? À quel âge a-t-il pris cette décision décisive pour le Seigneur? Puis regardez verset 3. Le verset 3 nous le dit. La huitième année de son règne. Donc la huitième année de son règne, comme il était encore jeune, nous dit le verset, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Donc, il a 8 ans, il devient roi. 8 ans plus tard, il a quel âge? 16 ans. Donc il commence à chercher Dieu ou rechercher Dieu à l'âge de 16 ans. Et ce qui est dingue, c'est qu'une fois qu'il a pris ses décisions, il ne s'est jamais dévié de ses décisions. Jamais, nous dit le texte. Alors moi, ce qui m'encourage, mes amis, c'est que j'ai l'impression parfois de sous-estimer la capacité spirituelle de nos jeunes. Nous avons parfois tendance à considérer nos jeunes des enfants qu'il faut allaiter au lait et pas à la viande. Mais regardez, à 16 ans, un jeune peut parfaitement bien prendre la décision de suivre le Seigneur de tout son cœur et d'y rester fidèle pour le reste de sa vie. L'exemple suprême est ici. C'était le cas pour Josias. Les années rebelles des adolescents ne sont pas une obligation, mais une exception, je l'espère. À 16 ans, Josias, comme Joseph, comme Daniel et comme tant d'autres dans la Bible, ont pris clairement ces décisions décisives. Et ils ont décidé que je vais chercher l'Éternel, je vais le suivre, point barre. Voilà leur décision. Et il s'est inspiré du roi David. Donc, le premier aspect négatif, ou disons le premier défi qu'il avait, c'était son âge. Deuxième défi qu'il avait, c'est sa culture. Pour le faire, Josias a dû surmonter 57 ans de rébellion et d'idolâtrie dans son pays. On y reviendra dans quelques instants. Mais 57 années... Avant lui furent 57 années, c'est quand même pas rien, j'ai 63 ans, 57 ans, c'est presque toute ma vie. Des années d'idolâtrie, de débauche, d'abandon du Seigneur menées par sa propre famille. Et justement, ça c'est le troisième point qui a rendu son choix difficile, c'est sa famille. Vous voyez, Josias était le fils d'Amon et le petit-fils de Manassé, deux des pires rois de Juda. Alors regardez, on va reculer au chapitre 33. Et on va lire à partir du verset 21. D'accord? Alors ça, c'est le père de Josias. Verset 21, Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 2 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé, son père. Il sacrifia à toutes les images taillées qu'avait fait Manassé, son père, et il les servit. Et ne s'humilia pas devant l'Éternel comme s'était humilié Manassé son père, car lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. Imaginez que ça, c'est le récit de votre vie. Voilà le résumé de sa vie, ici. Il est dit, il servit les idoles qu'avait servi son père et se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Maintenant, reculons encore une génération à son grand-père, Manassé. Verset 1 du chapitre 33. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 50 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Écoutez, chaque fois que je lis cette phrase, je me dis, oh, imaginez le résumé de votre vie. Par cette phrase, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pour toutes les générations suivantes à le voir. Incroyable. Selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Voici ce qu'il a fait. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels aux Baal, donc ce sont des faux dieux. Il fit des idoles d'Astarté. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. donc dans le temple, « quoi que l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. » Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux et dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Himon. Donc il sacrifiait ses propres enfants. Il observait des nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquent les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de l'Éternel. Donc, dans le temple, il met son idole, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, mon fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir d'Israël du pays et j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toutes les lois, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Mais à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Donc le père et ensuite le grand-père de Josias, il est dit, ont amené le pays d'Israël dans une voie pire que celle des nations que l'Éternel avait déjà détruites. Donc en fait, Israël est descendu au plus bas du bas du bas. Ça, imagine, c'est ton père et ton grand-père. Question, quelle est la probabilité qu'un jeune garçon de 16 ans, avec cet arrière-plan familial, dont le père et le grand-père avaient volontairement abandonné l'Éternel, qui était devenu idolâtre en se prosternant devant des idoles, quelle est la probabilité que Josias décide, lui, de suivre fidèlement le Seigneur et ça, prendre la décision à 16 ans? Alors, je vais parler aux jeunes gens pendant quelques instants, d'accord? Ne donnez pas d'excuses pour une vie spirituelle froide, tiède, ou pour une vie peu engagée. Non, il n'y a pas d'excuse pour le péché dans votre vie, ni pour une éventuelle rébellion. Bon, je parle aussi aux adultes, hein. Je parle à tout le monde ici, d'accord? Et à moi-même, bien sûr. Non, il n'y a pas d'excuse pour notre égarement en tant que chrétien, si on prétend être chrétien. Non, il n'y a pas d'excuse. Josias avait tout pour donner des excuses. Mais déjà à 16 ans, il savait quel était le choix qu'il devait prendre et il a fait le bon choix. Et dans 2 Rois 22, 2, il est dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David, son père, donc David, inspiration, d'accord, du roi David. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Waouh, ça c'est ce que j'appelle une décision. Une vraie décision. Pas une décision pour cette année, c'est pas une résolution pour 2020 qui va tenir un mois ou deux. Non, non, il a pris une résolution, il a dit, voilà, pour le reste de ma vie. Le reste de ma vie. Ça, c'est une décision. Donc, Josias a pris la bonne décision. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui prennent des bonnes décisions, mais qui ne les tiennent pas. Ils n'agissent pas sur cette décision. En fait, ils prennent des bonnes décisions toute leur vie, mais ils restent englués dans leur état de paralysie, englués dans leur péché. Une décision sans action est plutôt vaine. Pour le jeune roi Josias, il avait des excuses. Nous, on pourrait dire, ouais, ma famille est compliquée, mon mari est non-croyant, ma femme est compliquée, non-croyant, mes enfants sont comme ceci ou comme cela, mon travail est compliqué, ma santé est compliquée, ma situation professionnelle est compliquée, mes finances sont compliquées, le temps que je peux consacrer au Seigneur est compliqué, excuse, excuse, excuse. Savez, si on veut des excuses, il y en a toujours. Toujours des excuses. Moi, j'ai plein d'excuses aussi, vous savez. Ouais. Alors voilà, moi je pense que Josias, il est vraiment inspirant par rapport à ça. Il a pris une décision, jeune. Il a évalué, il s'est dit, bouh, regarde ce qu'a fait mon père, mon grand-père, ça c'est pas bon. Alors je pense parce qu'on va voir, il n'avait pas encore de Bible, ça il va la trouver dans quelques instants, on va le voir. Mais il avait entendu toutes ces histoires de son grand-père, il savait quels étaient les bons, les mauvais rois. Et là, à un moment donné, il s'est dit, non, moi je veux marcher comme le roi David. Comme le roi David. Donc voilà la première décision, première résolution, si vous voulez, de Josias. Décision numéro 2. Destruction. Destruction. Deuxième résolution ou décision qu'il prend, destruction. Regardez à partir du milieu du verset 3. À la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images en métal fondu. On renversa devant lui les autels de Baal et il abattu les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées, les images en métal fondu et les réduisit en poussière et il répandit la poussière sur les sépulcres et sur ceux qui les avaient sacrifiés. Donc en fait, il prend ses idoles, ces grandes statues à des faux dieux, non seulement il les détruit, il les rend poussière et il répand cette poussière sur les gens qui ont sacrifié à ses idoles. Verset 5, et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. Donc il va chercher tous ces ossements de ces prêtres morts. Il brûle tout ça sur leurs autels, et ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem, dans les villes de Manassé et d'Éphraïm, de Siméon et même de Naphtali, partout au milieu de leurs ruines. Il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées, et les réduisit en poussière, et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël, puis il retourna à Jérusalem. Vous savez ce qu'il fait là? Il détruit tout l'idolâtrie dans le pays. Non, ça, c'est ce que j'appelle une concrétisation radicale de sa décision. Pour lui, c'était simple. Il décide de revenir au Seigneur et du coup de remettre l'ordre dans le pays vis-à-vis du Seigneur. Et ça veut dire agir. Il va tout simplement se débarrasser de tout ce qui est à l'encontre de Dieu. Alors, je ne pense pas que c'était un geste de popularité. Imagine la réaction, parce que le pays, depuis 57 ans, vivait dans cette idolâtrie, et tout d'un coup, le roi, il décide, non, terminé, paf. Non, mais je pense qu'il n'était pas populaire quand il a fait ça. Non, faire ce que Dieu veut, écoutez bien, faire ce que Dieu veut, décider d'obéir la parole de Dieu, ça va contre-courant de la société. Si vous voulez être populaire, ne le faites surtout pas. D'accord? Mais si vous voulez être populaire avec Dieu, faites-le. Mais si vous voulez être populaire avec le monde, non, mais ils vont vous prendre pour des malades et des fous. Ça va contre-courant, c'est sûr et certain. D'obéir à Jésus-Christ, ça va totalement contre-courant. Mais c'est ce qu'il fait. Alors, comme j'ai dit, il n'avait pas encore découvert la loi de Dieu, parce qu'il va le découvrir dans quelques instants, mais il avait le bon sens, je pense, de l'histoire. Alors, je crois que nous, on doit se poser quand même quelque chose, une question. Faire un bilan. Il y a des choses qui sont tout simplement incompatibles avec la vie d'un croyant. C'est ce que Josias, il décide de revenir au Seigneur et il dit non, ce qui se passe dans ce pays est incompatible avec la voie dans le Seigneur. Ben nous, c'est un peu pareil. Il y a des choses, peut-être, dans nos vies qui sont incompatibles avec la vie chrétienne que nous annonçons et que nous disons être, quoi, nous, les chrétiens que nous sommes. Et nous devons être draconiens avec ces choses. Il est étonnant parfois de voir combien on peut vite compromettre ces choses. Il y a des choses qu'il faut tout simplement renverser dans nos vies, des forteresses qu'il faut abattre, briser, brûler, casser, des piliers qu'il faut réduire en poussière. Nous avons des autels, nous avons des idoles auxquelles nous nous attachons. Et avec lesquels nous promettons, vous dites, non mais John, est-ce qu'un chrétien peut être idolâtre? Tenez-vous bien, 1 Jean 5, Jean écrit à des chrétiens, le dernier verset de 1 Jean dit ceci, petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Dans 1 Corinthiens 10, 14, Paul y dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Il parle à des chrétiens. Oui, un chrétien peut glisser dans une forme d'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est tout ce qui devient plus important que Dieu. C'est des choses que vous regardez la parole de Dieu, vous dites, ah, j'ai vraiment envie de faire ceci ou cela. La parole de Dieu me dit que je ne devrais certainement pas le faire et je trouve toutes sortes de moyens pour trouver mes excuses et faire ce que j'ai envie vraiment de faire. Alors, je suis sûr que ça arrive à personne dans notre église, c'est juste pour les autres, d'accord? Mais j'ai entendu que ce genre de choses arrive, d'accord? Mais ouais. Et c'est pour ça que Josias, il a pris la décision. Non, alors, qu'est-ce que Dieu veut? Je me décide, Donc, je vais être un homme ou une femme de la parole de Dieu. Je vais la consulter, et quand c'est clair et net ce que dit la parole de Dieu, je fais ce que Dieu veut, et je suis d'accord d'aller à contre-courant, de me faire ridiculiser, voire de me faire martyriser dans le pire des cas. C'est ça un martyr. Un martyr, c'est quelqu'un qui décide de ne pas compromettre, et à un moment donné, bah, sa vie est en jeu. C'est un martyr. Alors nous, par la grâce de Dieu, on n'en est pas là. Mais ça pourrait l'être un jour, peut-être. Alors, c'est pas que de l'effort humain. Heureusement que la grâce de Dieu est là pour nous aider. Mais oui, Tite 2. Tite 2, la clé, c'est pas de l'effort brut humain. C'est de se baigner dans la grâce de Dieu. Tite 2, 11 dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Ah ouais, heureusement, Christ en moi me donne cette envie de vivre pour lui. C'est cette grâce de Dieu en moi. C'est ça l'aide disponible. Donc, il ne faut jamais dire que c'est impossible. Je ne comprends pas ma situation. Non, peut-être que je ne la comprends pas, mais moi je comprends la parole de Dieu. Et si Josias a pu le faire, tu peux le faire aussi. Il l'a fait à 16 ans, tu peux le faire aussi. Tu peux être libéré de l'esclavage de ton péché. Alors, ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que si on regarde, je n'ai pas le temps de vous tout le montrer, mais juste de savoir que ces destructions acharnées des idoles lui ont pris 10 ans, selon 2 Chroniques 34:8, de la 8e année de son règne à la 18e année de son règne. Et quelque part, la sanctification elle est longue. Tout n'est pas réglé d'un jour à l'autre, mais tout a été précédé par une décision. Seigneur, fais le point dans ma vie, montre-moi où sont les idoles dans ma vie, montre-moi ce qui doit changer dans ma vie. Mon beau-père était un alcoolique. Et un jour, il est venu à Christ. Il était âgé. Et il a réalisé qu'il avait changé parce que l'alcool détruisait sa vie, son mariage. Et donc, en Christ, il a décidé de changer son comportement. Et il s'est dit, j'arrête. Je vais détruire l'autel de l'alcool dans ma vie. Est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce qu'il a chuté? Oui. Mais finalement, il a vaincu l'alcool. Grâce à Christ. Et on l'entendait toujours dire, oh, Jesus help me, Jesus help me, il est américain, Jesus help me, Jesus help me, Jésus aide-moi, Jésus aide-moi, Jésus aide-moi. Tous les jours qu'on l'a connu en tant que chrétien, toujours en train de dire, Jésus aide-moi, Jésus aide-moi, Jésus aide-moi, Jésus aide-moi. Il voulait complètement imbiber de Jésus. Et par la pure grâce de Dieu, et en Jésus-Christ, il a pu éliminer cette habitude d'alcool dans sa vie. Oui, c'est possible. Oui, est-ce que c'est dur? Oui, est-ce que ça prend du travail? Oui, mais c'est possible. C'est possible. Troisième résolution. Décision, destruction, numéro 3, construction. Construction. On est de nouveau en 2 Chroniques 34. Regardez ce qui se passe. Je vais lire ces versets à partir du verset 8. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison. Donc, il prend la décision, il purifie le pays. Après tout ça, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maaseja, chef de la ville, et Joash, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Donc on peut imaginer, après 57 ans d'idolâtrie, l'état du temple. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Ilkija, et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu, et que les Lévites gardiens du seuil avaient recueilli à Manassé et à Éphraïm et de tout le reste d'Israël et de tout Juda et de Benjamin et des habitants de Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui avaient chargé de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les maçons, pour les achats des pierres et des tailles de bois destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments qui avaient détruit le roi de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Jakat et Abdias, lévites d'entre les fils de Merari et de Zacharie et de Meshulam, d'entre les fils de Kaatit. Tous ces lévites qui était habile musicien, surveillait les manœuvres et dirigeait tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Ils avaient encore d'autres lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Donc, il a maintenant 26 ans. Le pays est purifié. Mais Josias comprend qu'on ne peut pas vivre simplement avec une décision et en éliminant le péché, mais il faut remplacer le péché par ce qu'il plaît au Seigneur en lui offrant un culte à sa seule et unique gloire. D'un côté, il faut rejeter fardeau et péché qui nous enveloppent si facilement, Hébreux 12:1, mais aussi il faut avoir le regard fixé sur Jésus, le chef et consommateur de la foi. Les deux vont de pair en pair. Alors à l'époque, le centre du culte juif était clairement lié au temple de Jérusalem. C'est Salomon qui l'avait fait construire plus de 300 ans avant. Et lorsque le temple fut terminé dans sa construction, l'arche de l'Alliance, dans laquelle étaient entreposées les deux tables de la loi comme eux, ils avaient reçu de Dieu, fut placée dans le lieu saint du temple. Et à ce moment-là, nous dit 2 Chroniques 5, 13 à 14, la nuée de la gloire de l'Éternel remplit la maison. C'était visible. Donc Dieu est venu habiter au milieu de son peuple et le temple était, si on veut, sa demeure. C'était concret et visible. Eh bien, le temple, à l'époque de Josias, était complètement en ruine. Pendant le règne de 57 ans, son père et son grand-père, les réparations du temple qui avaient été entreprises par son arrière-grand-père Ézéchias avaient cessé. Donc, on imaginait l'état du temple aujourd'hui. Mais non seulement est-ce que le temple était en ruine, mais son père et son grand-père avaient entreposé des idoles et construit des autels dans le même temple. Et tous les gens de Jérusalem et du pays y allaient pour adorer ces idoles, pour adorer Baal et les astres. Non, mais c'est vraiment, vraiment, Israël est tombé bas. Donc, il fallait un homme courageux pour remettre de l'ordre, et c'était Josias. Il décide donc de réparer le temple pour réinstaurer la vie du culte dans le pays. Mais il faut recueillir des fonds. Donc il le recueille, puis il engage une armée d'ouvriers qualifiés qu'il paye pour faire le travail. Alors, l'application, écoutez, le temple, par une décision de Josias, redevient le centre d'adoration à Jérusalem, comme Dieu l'avait voulu. Alors bien sûr, aujourd'hui, le temple n'existe plus. À partir de la venue de Jésus-Christ et l'arrivée du Saint-Esprit dans Acte 2, l'Église est née. Et l'Église, c'est quoi? C'est le groupement de chrétiens ensemble. Ça a remplacé le temple, en fait. Jésus est au milieu de nous. Nous sommes une Église. Alors, une Église, ce n'est pas une salle ici à l'hôtel Ramada. Alors, c'est comme ça qu'on le voit. Mais en fait, l'Église, c'est nous, c'est les gens. On est unis ensemble autour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, l'Église. Alors, il y a l'Église universelle, tous les chrétiens du monde, mais ensuite, on le voit dans le livre des Actes, les chrétiens se réunissent dans des églises locales. Nous sommes une église locale parmi beaucoup d'églises locales à Genève. Et donc, quelque part, la résolution de Josias de réparer le temple pour réenclencher une vie d'adoration, mais j'ai envie de dire que pour nous, j'ai envie de mettre une application, est-ce que dans ma vie, l'Église est une priorité? Parce que pour Josias, il a pris une décision, suivre le Seigneur, on vire le péché et on réenclenche la vie de culte. C'est un peu pareil pour nous, en fait. C'est un peu pareil pour nous. C'est dur de grandir seul. Moi, je dirais, c'est presque impossible, en fait. Le psaume 27,4, on le chante régulièrement, hein. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Bien sûr, on n'a pas besoin d'être dans le temple, mais c'est là où Dieu, dans l'Ancien Testament, se réunissait avec son peuple. Vous direz, oui, mais je n'ai pas vraiment besoin d'une église. Moi, je peux louer Dieu tout seul dans ma maison. Oui, c'est vrai d'un côté, mais de l'autre côté, non. Parce que Jésus a créé l'église. Et il sait très bien qu'on a besoin les uns des autres pour pouvoir grandir. C'est comme un feu. Prenez, il y a 10 bûches de bois, ça brûle à fond. Vous prenez une bûche qui brûle et vous la mettez de côté. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'éteindre. C'est évident qu'elle va s'éteindre. C'est pour ça que Hébreux est vraiment clair par rapport à ça. Hébreux 10, 24 nous dit, Veillons les uns pour les autres, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Comment ? N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez, l'église, ce n'est pas simplement « je dois aller à l'église ». L'église, c'est un endroit incroyablement utile parce que je veille sur les autres et les autres veillent sur moi. Je deviens redevable. Vous dites « oui, mais c'est ce que j'aime pas ». Oui, mais c'est ce que tu as besoin d'avoir. On a besoin d'être redevable. J'ai besoin que les gens viennent me dire « John, écoute, là, non. Là, c'est pas bien, là, c'est bien. » On a tous besoin de ça. C'est ça, une église. Matthieu 16, 18, Jésus a dit « Je bâtis mon église ». Et qu'est-ce qui se passe dans une église ? Eh bien, dans Actes 2, 41, la première église de Jérusalem, on apprend ceci. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, ce qu'on va faire tout à l'heure, et dans la prière. » C'est un endroit où ensemble, on s'encourage. On s'encourage pour le Seigneur. Donc si tu veux que Dieu soit la priorité absolue dans ta vie, il faut prendre une décision, ça c'est sûr. Il faut ensuite éliminer ce péché, c'est-à-dire combattre ce péché dans notre vie. Et trois, il faut reconstruire une authentique communion avec le Seigneur, être engagé à une église locale. Et ça, ça va prendre temps, effort, argent. Vous savez, c'est pas facile. Moi, le dimanche matin, je suis comme certainement d'autres. Je me lève, je dis, ah, est-ce que je suis bien au lit ? Pourquoi je ne peux pas faire la grâce matinée aujourd'hui ? Moi, je suis exactement comme vous, enfin, peut-être pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir cette pensée. Mais je me lève, j'y vais. Est-ce que je regrette ? Bonne question. Je vous parie n'importe quoi. Est-ce que, même si c'est dur de venir, est-ce qu'à la fin du culte, vous dites, ah, j'aurais pas dû venir ? Jamais ! Même si le message est dur et en plein dans votre cœur, quelque part, vous êtes content, j'espère, parce que vous dites, ah, il fallait que j'entende ça. Ou peut-être vous parlez avec quelqu'un, il y a un chant qui vous bénit. Mais on repart tous heureux. L'Église, c'est vraiment quelque chose de super, en fait. Donc moi, c'est ça un petit peu l'application aujourd'hui. Est-ce que nous avons la même perspective que Josias ? Est-ce que je suis vraiment lié, engagé à l'Église, en fait ? À l'Église. Et ça s'amène au dernier point. Dernier point, donc il y a eu décision, destruction, construction, et quatrièmement, direction. Ça, c'est vraiment super. Écoutez, jusqu'à maintenant, Josias n'a jamais vu une Bible de sa vie. Il a fait tout ça sans avoir une Bible. Vous dites quoi ? Ouais, regardez, on est de nouveau dans 2 Chroniques, chapitre 34, verset 14. Regardez, c'est incroyable. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Donc ils sont en train de réparer le temple et tout d'un coup, dans un trou planqué quelque part, ils voient une copie d'une Bible. Alors, la loi de l'Éternel de Moïse, probablement la Torah, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Alors Hilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur était commandé. » Ils ont ramassé l'argent qu'ils trouvaient dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Hilkija et à Alchikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, et Shaphan, le secrétaire et Asha, serviteur du roi, allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. » Alors, c'est incroyable. Imaginez où est arrivé le pays. Plus une copie. On le sait parce que la réaction du roi est la réaction de quelqu'un qui n'a jamais vu ce livre avant de sa vie, quoi. Donc, ils trouvent le livre de la loi, il y a une discussion par rapport à quel livre exactement ils ont trouvé, probablement les 5 premiers livres de la Bible. Vous dites, mais est-ce que c'est possible qu'il ne reste qu'une copie dans le pays? Ben oui. Enfin, oui et non. Dioclétien en 305, dans l'année 305, un empereur nommé Dioclétien, comment on dit, Dioclétien? Ouais, disons, hein, ça marche. Se tenait face à un problème politique, l'Église grandissait rapidement, le nombre est en pouvoir, il se sentait menacé et décida aussitôt de briser l'Église et son pouvoir et la forcer à se soumettre à lui. Il voulait vider son empire de chrétiens qui adoraient Dieu de la Bible et non l'empereur. Sa persécution a eu 3 étapes, de vider l'armée et son palace de tout chrétien. 2, il ordonna la destruction de toutes les Bibles et de tous les livres religieux et fit emprisonner tous les pasteurs et les a forcés à sacrifier à l'empereur par le biais de tortures. Et 3, tous les chrétiens furent forcés d'offrir des sacrifices à l'empereur. Il y a eu beaucoup de martyrs ce jour-là. Après des années de massacres et de destruction, l'empereur croyait avoir finalement détruit toutes les Bibles qui existaient et qu'il haïssait tant. Il érigea un monument de victoire au-dessus des cendres d'une Bible brûlée. L'inscription sur la colonne lisait « Disparu le nom des chrétiens ». 20 ans plus tard, étonnamment, le nouvel empereur Constantin s'est converti lui-même au christianisme et a offert une récompense pour les Bibles qui restaient. En moins de 24 heures, non moins de 50 Bibles ont été sorties de leur cachette et offertes à l'empereur. Joseph Staline a fait exactement pareil. Beaucoup de gens ont essayé d'éliminer la parole de Dieu et les chrétiens du monde. Impossible. Ben là, il y avait une tentative. Mais Josias, à cause de la réparation du temple, trouve cette Bible. Il reçoit le livre de la loi. Et ce qui est intéressant, c'est la manière qu'il réagit. Il écoute. Non, mais imaginez, vous entendez pour la première fois de votre vie la Bible. Et il entend les menaces du Seigneur qui se trouvent dans la loi, dans Lévitique 26 et Deutéronome 28 et bien d'autres endroits. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme ça qu'il faisait à l'époque quand ils étaient tristes. Il déchire ses vêtements. Il déchire ses vêtements. Quelle réaction? Et moi, je me pose la question, est-ce que c'est la réaction que nous avons? Quand nous, on lit la Bible, quand nous, on entend la loi de Dieu, est-ce qu'on est là en train de dire, waouh, c'est la parole de Dieu. Seigneur, comment dois-je réagir aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis de cette parole? Et lui, sa réaction, c'est, pardonne-nous, Seigneur, parce que ta colère va s'effondrer sur nous. Peut-être, nous, on doit réagir, Seigneur, pardonne-moi, ou peut-être dire, béni soit l'Éternel, Seigneur, dans ta grâce. J'ai pu respecter ces choses et c'est que la grâce de Jésus-Christ dans ma vie. Mais est-ce qu'il y a un sentiment ou bien de joie ou bien de malheur ou de tristesse parce que tu sais que c'est la parole de Dieu ou bien c'est un autre livre? Ouf. Vous et vos Bibles, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça. Vous et votre Bible. Non, nous et la parole de Dieu, oui, c'est ça. Nous et la parole de Dieu. Je vais vous montrer encore un truc, puis j'arrête. Là, il fait un truc dingue. Alors, tenez-vous bien, c'est incroyable. Chapitre 34, verset 29. Regardez. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis, il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda, les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Donc, il réunit tout le monde. Parce qu'il va faire un speech. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. Il lit les 5 livres. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, écoutez bien, s'engageant à suivre l'Éternel et observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, et tous de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance dans ce livre. C'est ce qu'il fait le roi. Il dit, voilà, il réunit tout le monde. Il lit les 5 livres, ensuite il se lève et il dit ceci, « Mesdames et messieurs, je m'engage publiquement devant vous tous, aujourd'hui, c'est ce qu'il dit au verset 31, à observer ses ordonnances, ses préceptes, et ses lois, de tout mon cœur, de tout mon âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. » Et ensuite, il sera scié. Est-ce que tu le ferais publiquement, ça? Est-ce que moi, je le ferais publiquement? Moi, je dis chapeau à ce roi, quoi. Publiquement, il s'engage. Alors, quand tu t'engages publiquement, au fait, c'est quoi un baptême? C'est ça, un baptême. Quand je me fais baptiser, je proclame publiquement, je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec Christ. Aujourd'hui, je m'engage à suivre le Seigneur. Est-ce que tu as été baptisé? Tu as en fait déjà fait cet engagement public. Moi aussi. C'est super quand même. Donc, je pense que nous devons repenser en fait notre engagement et on doit se poser la question, mais est-ce que je suis prêt publiquement à m'engager vis-à-vis de la parole de Dieu? Ça, mes amis, c'est ce que j'appelle du béton armé, biblique. D'accord. Non, mais franchement, moi, il m'impressionne. J'ai toujours aimé ce roi, quoi. Josias. Quatre résolutions. Décision. Destruction. Construction. Le temple. Direction. La parole de Dieu. Écoutez, je pense que si chacun de nous, dans nos cœurs, devant le Seigneur, on fait le bilan, on se dit, ouais, écoute, Seigneur, j'en suis où, honnêtement? Montre-moi où j'en suis. Ensuite, peut-être pendant ce moment de Sainte-Seine ce matin, parce qu'en fait, dans le chapitre suivant, en fait, il remet en place toute la Pâque juive. C'est vraiment intéressant de voir les réformes qu'il va rajouter. Ben, c'est ce qu'on va faire, et peut-être c'est pendant ce temps où on va célébrer le corps de Jésus-Christ, le pain, le sang de Jésus-Christ. On va célébrer son sacrifice à notre égard, le pardon de nos péchés, la vie éternelle qui nous a été gratuitement donnée par sa grâce, qui implique ce genre d'engagement, qui implique, Seigneur, voilà, je t'appartiens, tu es mon Seigneur, tu vis en moi, Galates 2:20, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur, ce que tu veux, je fais. Ça devrait être notre engagement. Oui, mais est-ce que je veux payer le prix? Ça fait partie du truc. Il y a un prix à payer. Jésus a dit, prends ta croix et suis-moi. On doit mourir à soi-même et mourir à son péché. Romains 6. Alors voilà, écoutez, on a 10-15 minutes. On va s'incliner. Peut-être, Serge, tu pourrais revenir et peut-être jouer un petit peu. On va réfléchir. Peut-être prendre quelques instants de réflexion. Et ensuite, j'ai invité mes amis à venir et distribuer la Sainte-Seine. D'accord ? Nous prenons presque juste un petit peu de temps à réfléchir et faire le bilan dans nos vies, d'après ce qu'on vient d'entendre. Seigneur, nous te remercions ce matin pour la vie de cet homme, Josias, ce jeune homme. Et, Seigneur, c'est vrai qu'en regardant son portrait, ben, peut-être on se sent très loin de son portrait. Et c'est là où ton pardon est tellement énorme, Seigneur. Le sang de Jésus nous pardonne. C'est ça le christianisme. Et donc, peut-être aucun de nous aujourd'hui, on se sent à la hauteur, on ne l'est certainement pas, Seigneur. Et donc, on en profite ce premier dimanche de l'année pour te demander de recommencer quelque chose en nous quelque part. Et de nous aider à démarrer cette année de la bonne manière, Seigneur. Bénis ce temps de Sainte-Seine maintenant, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les trois frères qui ont été convoqué pour m'aider à distribuer la Sainte-Seine, si vous pourriez venir, ce serait super. prie pour le pain, d'accord.
Oui, Seigneur, il y a environ 2000 ans, tu es venu, tu es descendu sur terre sous la forme d'un homme. Tu as décidé de vivre ce que tous les humains subissent et vivent, les souffrances, les douleurs, les épreuves, les tentations. Tu as rempli ta mission et tu as même souffert la mort pour nous. Donc aujourd'hui, nous venons avec humilité devant toi, avec adoration et remerciement pour ce sacrifice que tu as fait pour nous. Nous voulons commémorer avec ce pain le corps que tu as donné pour nous, pour nos péchés. Amen.
Amen. Merci Nathan. Tenez le pain, on va le manger ensemble tout à l'heure et peut-être on peut chanter un chant pendant qu'on distribue le pain.